à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Robert Redeker, bonjour et merci d'être venu nous rejoindre pour ce quatrième entretien.
Bonjour pour la quatrième et dernière fois.
Dernière fois, peut-être.
Peut-être.
L'avenir n'est jamais sûr. Mais Robert Redeker, votre ouvrage aux éditions du CERF, paru il y a 5-6 mois, je crois que c'est en mars ou avril, qui s'appelle « L'abolition de l'âme », est un ouvrage extrêmement riche qui éclaire beaucoup l'évolution de notre monde contemporain et qui peut servir à certains de nos auditeurs qui pourraient se sentir dans une période de confusion. C'est ce que nous disions lors de notre dernier entretien. Il y a beaucoup de confusion dans notre monde moderne qui amène un peu les gens à, d'abord à raconter n'importe quoi, mais surtout beaucoup de personnes de bonne foi à ne plus trop savoir, au fond, décoder, qui n'ont plus les clés pour comprendre l'évolution de notre monde. Et vous, votre ouvrage remet en perspective, en repartant des grands courants philosophiques de notre civilisation, remet en perspective un certain nombre de sujets de préoccupation très contemporains. Nous parlions la dernière fois du courant déconstructionniste et de son avatar, entre guillemets, le wokisme, cette espèce de religion complètement nihiliste qui a comme objet de détruire notre civilisation. Et clairement, c'est ce que vous nous expliquiez fort justement. Je voudrais qu'on parle cette fois-ci d'une chose qui préoccupe beaucoup de parents ou de grands-parents, ce qui est mon cas et peut-être le vôtre. C'est cette fameuse théorie du genre dont on nous rabat les oreilles dans l'éducation nationale et qui a l'air de se répandre à la vitesse de la lumière dans les programmes, les enseignements, dans les écoles, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée que, au fond, le genre peut être un choix individuel et pas une donnée de base?
Oui, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, on pourrait faire une première remarque, c'est que la théorie du genre a une petite sœur qui a finalement les mêmes objectifs dans un autre domaine, c'est l'écriture inclusive.
Ah, tout voilà. À fait.
Et l'écriture inclusive, que veut-on faire à travers l'écriture inclusive? C'est bien sûr détruire la langue, détruire la possibilité de raisonner de façon logique, mais surtout par l'écriture inclusive, on entre dans le balancement des genres. Donc c'est une petite sœur de...
Oui, c'est un pied dans la porte.
Voilà, c'est un pied dans la porte, oui, ouais. de la théorie dite du genre. Alors qu'est-ce qui caractérise cette théorie? Je crois que c'est un refus de la condition humaine. Voilà. C'est-à-dire refus du fait que la nature, ou bien Dieu, détermine par la biologie ce que je suis. Donc, il y a la volonté que ce que je suis ne dépende que de moi, ne dépende que de mon ego. Donc, que je sois moi-même mon créateur.
Moi j'avais noté cette phrase... Qui est assez surprenante et qui caractérise bien ce qu'est la théorie du genre. Je cite, parce qu'évidemment je n'y adhère pas, mais je cite cette phrase. « Le corps n'existe pas, seul compte la conscience que l'on a d'être un homme ou une femme. » En d'autres termes, si j'ai la conscience d'être un homme, alors que dans mon état civil, il est marqué que je suis une femme, et que sur le plan biologique, il y a quand même des chromosomes qui font de moi que je suis une femme, et qu'il y a quand même dans mon physique le fait qu'il y a un utérus, que n'ont pas les hommes, etc. Eh bien, c'est pas grave, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la conscience. Donc, si je me déclare un homme, je suis un homme.
Voilà, c'est une réinterprétation caricaturale du dualisme le plus abstrait, du dualisme corps-esprit le plus abstrait, avec la négation du corps. Bon, alors cette négation, c'est quelque chose d'important. Bon, finalement, c'est le désir qui est à la base de tout.
On en revient au désir.
La volonté doit, ma volonté doit se plier à mon désir, au mien, à moi seul. C'est le désir égoïste. Bon,
on est dans la civilisation du désir individuel. Voilà. C'est ça qui est fou. J'ai envie d'avoir un enfant, donc je suis un homme, j'ai le droit d'avoir un enfant. Hein,
c'est impossible, ça n'est pas dans l'ordre des choses de la nature, ça n'est pas dans l'ordre des choses anthropologiques. Eh bien, on va bouleverser les données anthropologiques, si importantes pourtant pour la stabilité de l'existence de l'homme et sa destinée. Donc, dans le wokisme, dans la théorie du genre, mais le wokisme, c'est
oui, ça en fait ça, partie.
On soumet la volonté au désir. C'est-à-dire, on soumet toute l'existence humaine, l'existence même de la société, au désir des individus, ces désirs, fussent-ils les plus absurdes et les plus ridicules, comme peut-être d'accoucher à 80 ans, cela viendra, ne vous inquiétez pas, comme de changer de sexe. Alors on ne va pas dire de sexe, on va dire de genre tous les trois jours. Et il me semble aussi, du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire avec le mot sexe, il me semble aussi que vous avez dit que c'est un dualisme, c'est un nominalisme. C'est-à-dire la réalité est absorbée dans le mot. Le mot sexe, qui désigne une réalité objective, une réalité biologique en dehors des mots, disparaît. Et ce qui reste, ou le substitut, c'est genre, qui est quelque chose de grammatical. Voilà. C'est le nominalisme.
Hein. Voilà. Donc on invente le yel, qui effectivement est quelque chose qui n'existe pas, qui est grammatical et qui ne correspond à rien de biologique.
Et qui efface. Ouais. qui efface les réalités. Alors, cela, il y a bien sûr derrière une grande peur de la différence sexuelle. Le grand paradoxe, c'est que les tenants de la théorie du genre, comme ceux du wokisme, sont des apôtres de la différence qu'ils divinisent, de l'idée de différence, ça vient de Derrida aussi, ouais, que l'on met au pinacle. En même temps, on cherche à gommer la différence fondamentale, la différence première, celle du livre de la Genèse, entre l'homme et la femme. Ouais. Voilà. On cherche à gommer la différence sexuelle. C'est un paradoxe très étrange.
Et alors, cette théorie n'est pas un paradoxe près, parce que effectivement, en faisant l'apologie de la différence, on en arrive à des idées racistes. Donc, ils prétendent lutter contre le racisme, alors que c'est eux les premiers qui renoncent à l'universalisme et au fait que nous sommes tous égaux devant la loi, et qui disent non, il y a des gens qui sont différents des autres, qui sont des noirs, qui sont des blancs, vous ne pouvez pas, si vous êtes blanc, comprendre ce que vit un noir, etc. Donc ils arrivent à une sorte d'apartheid. C'est sidérant, et quand je vois qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui embarquent là-dedans, je suis assez déprimé personnellement, je ne sais pas vous.
Il n'est pas nouveau que les intellectuels se trompent. Si j'étais mauvais angle, je dirais qu'il s'agit parfois dans l'intérieur de quelque chose de moutonnier, de se démarquer en rajoutant un peu pour faire carrière. Voilà. C'est très humain, mais
Je voudrais revenir aussi, Robert Heidegger, sur cette notion du désir, parce que je pense que c'est un aspect cardinal aussi de notre époque, qui est devenu une civilisation du désir. Or, moi, je me souviens, dans ma jeunesse, l'enseignement que j'ai eu dans ma famille, auprès de mes parents et de mes grands-parents, c'est « méfie-toi du désir, le désir n'est pas l'amour, et le désir, lorsqu'il est satisfait, c'est fini, on passe à autre chose. Et donc, moi, je suis très inquiet de voir qu'effectivement, on met en avant le désir, parce qu'on va créer une génération d'insatisfaits permanents, puisqu'au fond, le désir n'existe que tant qu'on n'a pas la chose, mais une fois que la chose est obtenue, on a un autre désir. Et c'est particulièrement grave pour le désir d'enfant. Quand les gens vous disent, je ne peux pas avoir d'enfant, mais j'ai un désir d'enfant, donc je vais louer le ventre d'une femme pour me faire un enfant, et comme ça, ça sera mon enfant. J'ai le désir d'enfant, mais est-ce que j'ai l'amour de l'enfant ? Ça, c'est... J'ai peur qu'on aille là à de très grandes déceptions. Et de même que le changement de sexe, de genre, hein, mais parce qu'on gomme le mot sexe, je pense que les gens sont victimes, seront victimes de leur désir et vont, lorsqu'ils seront satisfaits, leur désir sera satisfait, vont vouloir passer à autre chose. Mais là, c'est un aller sans retour. Une fois que il y aura eu une intervention chirurgicale chez des adolescents ou des adultes, c'est irréversible. Donc, comment vous voyez ça ?
Alors, il me semble d'abord qu'il y a dans cette, je dirais, mode, une mode, c'est passager, j'espère.
Oh, il faut espérer que la parenthèse se referme.
Dans cette mode du changement de sexe, un grand ressentiment contre la vie, et une grande ingratitude par rapport à la vie. Alors, les stoïciens nous ont appris, mais ça n'est pas très loin du christianisme, cela, nous ont appris que nous devons accepter notre condition et notre destinée, et que notre grandeur tient dans l'acceptation. Voilà. Être libre, disent les stoïciens, c'est accepter ce qui vous arrive comme si vous en étiez l'auteur. C'est cela la liberté. Et on est alors aux antipodes des théories modernes à la mode, celles du wokisme, de la déconstruction ou du genre. On est dans l'affirmation de la liberté. Voilà, la liberté, c'est l'alliance de la volonté et de l'acceptation, qui n'est pas la résignation, puisque c'est une acceptation active.
Alors il y a une phrase de Gustave Thibon dont nous parlions lors de notre premier entretien qui me revient à l'esprit. Gustave Thibon dit « Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le désunir. » Or, je reviens à l'âme et au corps. Croire ou laisser croire qu'on n'est pas né dans le bon corps et que donc on aurait un espèce d'esprit, ils n'appellent pas ça une âme évidemment, de conscience qui fait que moi j'ai conscience d'être dans... J'aurais dû naître dans un autre corps, donc je vais demander un autre corps. Mais ça va contre notre religion, qui est justement de dire ce que Dieu a uni, un corps et une âme, nul ne doit le désunir. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue de Gustave Thibon.
Qui est très évangélique. Et en même temps, ce n'est pas, c'est le contraire d'un dualisme. C'est ce qui me paraît le plus important dans notre civilisation qui parfois a été, parce que certains philosophes, même en se disant chrétiens, ont désuni l'âme et le corps, hein, au contraire de Descartes. Ouais. Nous sommes dans une civilisation de l'incarnation, c'est-à-dire qui prend en compte en même temps la grandeur et les besoins de l'âme et la grandeur et les besoins du corps. Et j'ajouterai une chose, notre civilisation sauve le corps par l'âme. C'est-à-dire, il donne sa grandeur au corps, il élimine les bassesses du corps par l'intervention de l'âme.
La transcendance. Robert Heidegger, merci pour tous ces éclairages et toutes ces clés de compréhension sur le monde compliqué qui nous entoure.
Merci à tous les auditeurs pour leur patience.